Nous allons lire les 6 premiers versets. On avait déjà prêché, entendu un message sur le chapitre 27, on va faire le 28. Alors, nous apprenons dans ce passage que Paul est en route pour Rome afin d'être jugé par César. Il va passer plusieurs années en prison à Rome et il mourra finalement en tant que fidèle martyr pour le Seigneur Jésus. Paul est un témoin fidèle de la puissance transformatrice que le Seigneur Jésus avait accomplie dans sa vie. Les 6 premiers versets, voilà. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ses gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement, mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous voulons ouvrir nos oreilles, les oreilles de notre cœur à ta parole ce matin. Seigneur, que tu puisses diriger toutes choses, que tu puisses vraiment, Seigneur, répondre aux besoins de tous et chacun ici ce matin. Que tu puisses aussi parler à nos cœurs, parler à ton serviteur, Seigneur, qui apporte ta parole. Que ton Saint-Esprit puisse agir avec puissance dans chacune de nos vies. Et Seigneur, que nous ne nous contentions pas seulement d'entendre ce que tu as à dire à ton Église, mais aussi, Seigneur, parce qu'un début, Seigneur, de ta parole, c'est aussi de vivre cette parole au quotidien. Que tu puisses nous bénir tous, Seigneur, et c'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Lorsque nous lisons le chapitre 27, nous voyons l'apôtre Paul et ses compagnons qui se retrouvent en plein milieu d'une tempête, une violente tempête. Et tous ceux qui se trouvaient sur le navire croyaient qu'ils allaient mourir. Tout le monde, sauf Paul. Le Seigneur avait envoyé un ange pour réconforter Paul et lui dire que le navire serait perdu, mais que tous ceux qui se trouvaient sur le navire seraient sauvés. Actes 27, 22, 25 et 41 à 44. Et Paul et ses compagnons de bord vont se retrouver sur une île qui s'appelle Malte, qui est finalement une petite île située dans la mer Méditerranée entre la Sicile et l'Afrique, une île qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et ces manifestants, verset 2, ces habitants, il est écrit, leur manifestèrent une bienveillance peu commune. Dans la seconde, c'est marqué les barbares, mais dans la français courant, c'est marqué les habitants. Alors, on traitait de barbares tous ceux qui n'étaient pas, qui n'avaient pas la foi finalement à ce moment-là. Mais je pense que j'aime mieux le mot « habitant » aujourd'hui. Alors, ces habitants leur manifestèrent une bienveillance peu commune. Ils accueillirent Paul et tous les autres auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Et Paul va tout de suite, c'est intéressant, regardez Paul. Paul y est sauvé pour servir. Et regardez ce qu'il fait. Il va se mettre tout de suite au travail. Il va tout de suite se mettre au travail afin d'encourager et de réconforter ceux qui étaient avec lui. Regardez ce qui est écrit au verset 3. Paul ramasse un tas de branches pour le jeter dans le feu. Rappelez-vous que c'était Paul qui avait encouragé les marins à regarder à Dieu pour obtenir de l'aide. C'était Paul qui avait transmis un message à ceux qui voyageaient avec lui dans Actes chapitre 27 pour les encourager. C'était grâce aux encouragements de Paul que les 276 personnes qui se trouvaient à bord du bateau arrivèrent vivants sur la terre ferme. C'est lui qui coordonna la bonne marche de toutes les opérations. Paul n'était pas un marin de formation. Paul, c'était quelqu'un qui fabriquait des tentes et Dieu parle à Paul, Dieu lui donne une révélation et il prend autorité sur le bateau, c'est Dieu qui lui donne cette autorité et finalement, il va diriger les opérations. Et une fois sur l'île, nous voyons encore que Paul est en première ligne pour améliorer la qualité de ses compagnons. Et nous avons ainsi, un aperçu supplémentaire du caractère de Paul qui est toujours prêt à faire ce qui a besoin d'être fait, et ce, malgré les difficultés et malgré les épreuves. C'est un sujet que Paul avait traité dans 2 Corinthiens chapitre 1. Je vous invite à tourner dans 2 Corinthiens chapitre 1. On va voir plusieurs passages ce matin. 2 Corinthiens chapitre 1. On va lire les versets 3 à 7. Je vais les mélanger un peu avec la version seconde et la version courant, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le langage évangélique. 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 3 à 7. Et notre frère Michael a parlé ce matin d'épreuves, de difficultés, de souffrances, de toutes sortes. Et Paul ici, c'est quelqu'un qui, on peut l'écouter parce que c'est quelqu'un qui a passé par toutes sortes de tribulations. C'est quelqu'un, Paul, quand il parle, on peut dire que c'est quelqu'un qui a du crédit à nos yeux parce qu'il raconte pas n'importe quoi. Ce que Paul parle, c'est qu'il l'a vécu. Alors, il dit pas, écoutez, je peux pas, c'est pas un enseignant qui est dans une faculté de théologie, qui a pas de vécu, qui a pas d'expérience sur le terrain. Paul, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience, qui vient parler non seulement une expérience de vie, mais une expérience avec le Seigneur. Et regardez ce qu'il dit, verset 3. « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, c'est-à-dire celui qui est plein de bonté, le Dieu de toute consolation. » Ça veut dire quoi? Celui qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos souffrances. Dans toutes nos souffrances, nous dit le texte biblique, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler, c'est-à-dire réconforter ceux qui passent par toutes sortes de souffrances en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. Et voilà pourquoi les promesses, comme Michael disait tantôt, les promesses sont importantes. Pourquoi? Parce que si on a souffert, puis qu'on a vraiment vécu l'expérience que Dieu nous a réconforté, Dieu nous a encouragé, Dieu nous a consolé, eh bien, il y a quelque chose, on va le dire d'une autre façon, on va encourager, on va réconforter, on va consoler notre frère et notre sœur qui vit des moments difficiles d'une autre façon, parce que c'est du vécu. C'est pas que de la théorie. Ça vous arrive, ça, des fois, que quelqu'un vous donne des conseils, et finalement, tu dis, ben, le conseil, c'est pas qu'il est pas crédible, mais tu dis, il me semble que ça passe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vécu le conseil qu'il vous donne. Et ici, ben, ce qui fait la crédibilité, c'est pas seulement le conseil d'un homme, c'est le conseil de quelqu'un qui a reçu, qui a vécu, qui a vu les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, car de même que nous avons part aux nombreuses souffrances de Christ, de même aussi nous recevons un grand réconfort par le Christ. Et on a parlé de bienfaits tantôt dans un chant, on a parlé de bénédiction. Frères et sœurs, chaque épreuve, chaque souffrance qu'on passe, le Seigneur a toujours une provision de réconfort à verser dans nos cœurs. Amen. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Sinon, si on ne croit pas en cela, eh bien, on risque de penser de voir Dieu comme quelqu'un qui se plaît à nous faire souffrir, quoi. Et c'est pas du tout ça. Quand on passe par une tribulation, quand on passe par une souffrance, eh bien, Dieu va nous apporter un grand réconfort. À travers une promesse qui est dans la parole, mais un grand réconfort, un sujet d'encouragement pour nous. Et ce sujet-là, si on le prend, si on se l'approprie, tôt ou tard, Dieu placera quelqu'un, un frère ou une sœur sur notre chemin qui va vivre les mêmes choses que nous. Et on sera capable de lui transmettre cette promesse qu'on a été puisée dans la parole, qui est devenue une réalité dans nos vies, on sera capable de lui transmettre pour qu'il puisse aussi recevoir ce réconfort qui vient de la part de Dieu. Parce que si la promesse, je la prends dans la parole, c'est pas moi qui le réconforte, c'est pas moi qui l'encourage, c'est la parole, c'est Dieu qui l'encourage à travers sa parole. C'est important ces choses-là. Donc, être un bon encourageur, hein, c'est quelqu'un qui puise dans la parole, qui va chercher les promesses dans la parole, puis il dit, voici mon frère, voici ma sœur, une parole que Dieu a pour toi ce matin. Voici une parole que Dieu a pour toi cet après-midi. Voici une parole que Dieu a pour toi pour que tu te relèves, pour que tu te fortifies, pour que tu continues, tu poursuives finalement, tu persévères jusqu'à la fin. Amen. Et c'est ça la richesse de la parole. On peut avoir une parole d'un homme, elle va durer un certain temps, elle va finir par s'estomper, mais la parole de Dieu, quand elle vient se loger dans notre cœur, eh bien, non seulement elle ne retourne pas au ciel sans effet, mais elle fait aussi son effet, elle produit son effet aussi dans chacune de nos vies. Et si nous sommes affligés, si nous souffrons, dit Paul, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Et si nous sommes consolés, si nous sommes réconfortés, Paul continue, hein, c'est pour que vous receviez le réconfort qui vous rendra capable de supporter avec patience les mêmes souffrances que nous subissons. Donc, Paul est en train de dire, écoutez ce qu'on vit là, à cause de Christ, c'est pas réservé simplement aux apôtres, c'est pas simplement réservé à moi, c'est réservé à tous ceux, à tous les enfants qui décident de servir le Seigneur. Peu importe où vous servez le Seigneur, eh bien, vous allez passer par les mêmes souffrances. Mais gloire soit rendue à Dieu, dit Paul. Le réconfort, il vient avec. Il y a une portion, il y a une provision de réconfort qui vient avec pour vous garder debout. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez part aussi au réconfort qui nous est accordé, dit l'apôtre Paul. Et le texte biblique nous dit ici que comme il déposait son tas de broussailles dans le feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand on dit s'attacha à sa main, j'aime mieux le texte de Second qui dit qu'elle était agrippée à sa main. Ça veut dire que c'était pas la queue, elle n'était pas enroulée, c'est qu'elle l'avait vraiment mordue, quoi. C'est comme si Paul était là avec la vipère, et puis tu vois la vipère qui se promène, quoi. Elle l'avait vraiment mordue à la main, elle était suspendue. Voilà ce que second dit, suspendue à sa main. Et il semblerait que la vipère était peut-être dans un état second à cause du froid et de la pluie, mais le texte nous dit qu'elle retrouva rapidement toutes ses capacités sous l'effet de la chaleur et s'attacha à la main de Paul. Et Paul va secouer la vipère dans le feu et sans ressentir aucun mal. Et frères et sœurs, Paul, il faisait quand même face à une situation dramatique ici lorsqu'il était mordu par ce serpent venimeux. Parce que, imaginez la réaction des gens, ces gens s'attendaient à voir sa main gonflée et à voir Paul mourir subitement, quoi. Mais voilà, l'apôtre Paul était non seulement en communion avec le Seigneur, mais le Seigneur lui avait promis qu'il se rendrait à Rome. Et nulle part, nous lisons, c'est intéressant, hein? Si vous lisez tout le chapitre 28, nulle part, il est écrit que Paul s'était tracassé d'avoir été mordu par une vipère. Je me suis posé la question, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi Paul s'est pas tracassé d'être mordu par une vipère? Parce que là, il était sujet à mourir, quoi. Oui. Il avait confiance dans la promesse que Dieu lui avait dit qu'il se rendrait à Rome. Et il savait que Paul, si Dieu lui avait fait une promesse, Dieu ne changerait pas d'idée. Alors, il ne se tracassait pas. Si les gens autour de lui se tracassaient, il sait que Dieu est fidèle à ce qu'il promet, que ce qu'il promet, il l'accomplit. Et Paul, et Dieu avait dit, écoute, tu dois te rendre à Rome. Tu vas te rendre à Rome et voici ce que tu vas dire. Alors, Paul n'était pas tracassé. Et pourquoi il n'était pas tracassé, Paul? Parce qu'il s'appuyait sur les promesses de Dieu. Il les avait assimilées, ces promesses. Paul, c'est pas seulement qu'il les avait appris par cœur, il voulait les vivre aussi. Parce que c'est une chose de les méditer par cœur, mais quand il arrive le moment où on doit les mettre en pratique, c'est le deuxième pas de foi qu'on doit faire. Et Paul, c'est ce qu'il faisait. On n'a pas tout le texte. Hein, le texte biblique, ici, on a six versets concernant la morsure. Hein. Alors voilà, on n'a pas tout ce qui s'est dit là-bas, hein, on n'a pas toutes les réactions des gens. Hein, mais je suis convaincu que Paul doit avoir dit aux gens, non, ne vous inquiétez pas, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur m'a promis que j'irai à Rome. Alors la morsure, bien, Dieu va la guérir. Ce qui aurait dû me tuer, eh bien, Dieu va faire en sorte que je continue à vivre. Peut-être que Paul avait à l'esprit les paroles du prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 26, versets 3 et 4, qui dit ceci, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, toi, Seigneur, tu le gardes en paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité, dit Ésaïe, car l'Éternel est le rocher de tous les temps. » Amen. Ouais. Il est possible que Dieu, dans sa miséricorde, a accompli ici la promesse faite par Jésus à ses disciples dans Marc chapitre 16, et qu'il épargna la vie de l'apôtre Paul. Je vais vous lire. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Est-ce que l'apôtre Paul avait une paix qui surpasse toute intelligence? Bien sûr qu'il avait cette paix. Bien sûr qu'il avait cette paix en lui. Rappelez-vous ce qu'il avait dit aux anciens d'Éphèse dans Actes chapitre 20, verset 24. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Si cette vipère avait un problème, Paul faisait face cette nuit-là à des serpents beaucoup plus mortels, des serpents qui avaient le pouvoir de détruire sa vie et mettre fin à son ministère. Il les a secoués un par un, et j'aimerais souligner les serpents que Paul a affrontés cette nuit-là sur l'île de Malte. J'aimerais les partager avec vous dans les six premiers versets, parce que peut-être que ce matin, il y a peut-être un serpent qui est accroché, qui est suspendu à votre main, et qui vous vole votre joie, qui vous vole votre paix, qui vous empêche de progresser, d'avancer dans votre vie chrétienne. Et comme Paul, vous avez le droit de le secouer, en vous appuyant sur les promesses de Dieu, vous avez le droit de secouer et dire « t'as aucun effet sur moi, ta morsure n'a aucun effet sur moi, tes paroles n'ont aucun effet sur moi parce que je m'appuie sur les promesses de Dieu. » Amen. Le premier serpent, c'est celui qui vous fait vivre une situation critique dans votre vie, c'est le verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Lorsque Paul a été mordu, ce fut un moment critique pour lui. Ce serpent était venimeux, il aurait pu le faire mourir. Et nous savons tous que Dieu agit de façon à neutraliser l'effet du poison. Mais voici où est le problème ici. Ce moment critique est survenu lorsque Paul s'est engagé à faire du bien. C'est intéressant, hein? C'est pas au moment où Paul a décidé de prendre des vacances ou se reposer. C'est au moment où Paul s'est décidé à faire du bien. Et c'est souvent un petit peu la même chose, hein, pour nous. Hein. Quand on est dans l'œuvre du Seigneur, peu importe le ministère que vous occupez dans l'Église, peu importe l'activité dans laquelle vous êtes impliqué, souvent quand on fait du bien, le diable, pour venir nous décourager, il vient faire en sorte de nous faire en sorte qu'un serpent vienne nous mordre la main et reste suspendu à notre main. Et après l'épisode sur le bateau où Paul va faire en sorte que tout le monde ait la vie sauve, il aurait pu demander à recevoir un traitement spécial, un traitement de faveur. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Paul qui est en train de travailler, qui est en train de servir. Et encore une fois, il sera éprouvé ou attaqué alors qu'il travaille et sert son prochain. Il peut nous arriver de penser que le fait de servir fidèlement le Seigneur va constituer une sorte de bouclier qui va nous protéger contre les problèmes qui nous assaillent dans notre vie. Mais c'est pas ainsi que ça se passe. Demandez à Job. Demandez à Shadrach, Meshach et Abednego. Demandez aux disciples. Demandez à Daniel. Demandez à Élie et même au Seigneur Jésus. Pardon. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est quand on sert souvent que le diable nous envoie des petits serpents nous mordre à la main pour essayer de nous ralentir, de nous décourager. La vie de l'homme, Job chapitre 14 verset 1, il dit ceci: la vie de l'homme est courte et sans cesse agitée, sans cesse remplie de tourments. Jésus lui-même avertit ses disciples: vous aurez des tribulations dans le monde. Vous avez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et quand les problèmes apparaissent, frères et sœurs, ils peuvent ébranler notre foi au point où nous avons non seulement l'impression que Dieu nous a abandonnés, mais que nous pouvons même penser que nous ne méritons pas un meilleur traitement que celui que nous vivons. Et pourtant, la parole le dit, on va le lire tantôt, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'apôtre Paul nous montre ici comment nous devons agir. Il faisait confiance aux promesses du Seigneur, et il croyait qu'il viendrait à son aide au moment voulu. Frères et sœurs, il en est de même avec nous. Et j'aimerais vous citer quelques promesses ce matin. Dans les moments difficiles, nous avons de merveilleuses promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer en ce qui concerne la présence de Dieu dans nos vies. Dieu lui-même a dit, « Fortifiez-vous, ayez du courage. » Deutéronome chapitre 31, verset 8. « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. » Ne crains point et ne t'effraie point. Frères et sœurs, pourquoi cette promesse, elle est crédible, elle est toujours efficace? Parce que cette promesse, elle est répétée dans le Nouveau Testament. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il répète cette promesse. Souvent, les gens, ils disent, oui, mais ça, là, c'est écrit dans l'Ancien Testament, est-ce que c'est encore valable pour aujourd'hui ou c'est plus valable pour aujourd'hui? Si elle est répétée dans le Nouveau Testament, vous pouvez être certain que cette promesse, non seulement elle est valable pour aujourd'hui, mais elle est encore efficace pour agir dans nos vies encore aujourd'hui. Maintenant, quand vous lisez le contexte de Deutéronome chapitre 31:8, le Seigneur, il dit, cette promesse, elle est efficace, elle est crédible, elle est valable pour ceux qui marchent dans les voies du Seigneur. Sinon, s'il n'y a pas de différence entre le monde et les chrétiens qui ne vivent pas comme le Seigneur, alors ça veut dire que la promesse, elle est valable pour tous les gens du monde. Mais ici, c'est une promesse que Dieu, dans Deutéronome, s'adresse à son peuple, et elle est répétée dans Hébreux 13 pour les membres de son peuple. Et c'est une belle bénédiction de savoir que peu importe ce que je vis, Dieu est à mes côtés. Dieu est à mes côtés. Et cette autre promesse de Jésus qui va faire écho en disant, « Sachez-le, je suis avec vous tous les jours, tous les jours. » Rappelez-vous, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Le diable, il est vaincu. Il peut vous accrocher toutes sortes de petits serpents, il est vaincu. Cette promesse, en ce qui concerne sa victoire, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. En ce qui concerne ses desseins et ses plans, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. La souffrance légère et momentanée que nous éprouvons nous prépare une gloire abondante et éternelle, beaucoup plus importante que cette souffrance. Ça, c'est un verset on doit apprendre par cœur, frères et sœurs. On souffre, on peut se replier sur soi-même, mais regardez la promesse. La souffrance légère et momentanée que vous éprouvez vous prépare une gloire encore plus abondante et éternelle, beaucoup plus abondante que cette souffrance que vous vivez pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on est tous en formation. Hébreux dit que c'est par la souffrance que Jésus a pris l'obéissance. Le Seigneur ne s'est pas épargné son propre fils. Ben, il n'épargnera pas ses propres enfants. Mais cette souffrance, elle nous prépare à recevoir une gloire plus grande. Et c'est exactement ce que Jésus a reçu. Il est maintenant assis à la droite de Dieu. Cette espérance vivante qui nous a transmise, la résurrection, il est assis à la droite de Dieu. Et un jour, frères et sœurs, nous serons dans la présence de Dieu comme Jésus. La souffrance que nous vivons, c'est simplement, ça nous prépare une gloire encore plus grande. Amen! Éphésiens chapitre 3, 20, en ce qui concerne sa puissance, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais méditez ce verset-là. On est gêné de demander à Dieu souvent. On est gêné, on pense, on se dit, oh non, je ne peux pas demander ça à Dieu, ou je vais demander, mais la moitié. Eh bien, Dieu voudrait peut-être te donner 10 fois la moitié de toi ce que tu veux nous demander. Au-delà de ce que nous pensons, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Dieu en réserve dans ses greniers des choses extraordinaires, de grandes bénédictions pour ses enfants. Non pas pour qu'on se les approprie, qu'on les garde pour nous, mais encore une fois, pour qu'on puisse les déverser chez nos frères et sœurs, pour qu'ils puissent en bénéficier. C'est la famille, hein? C'est la famille. On était 8 enfants, mon père ne travaillait pas pour nourrir juste le premier ni le dernier, il travaillait pour nourrir les 8. Hein? C'est la famille. Ouais. Et c'est la même chose. Donc, si un enfant de Dieu reçoit de grandes bénédictions, c'est pas pour qu'il les garde pour lui, c'est au profit de la famille de Dieu, pour que les gens puissent en bénéficier. Amen! C'est une belle promesse. Jésus s'approcha de ses disciples et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Frères et sœurs, il déplacera le ciel et la terre. Le Seigneur Jésus déplacera le ciel et la terre pour rencontrer vos besoins. Est-ce que vous y croyez à ça? Oui? Je vais vous donner des exemples. Pensons à Élie. Faites descendre le feu du ciel. Il a donné l'ordre à un corbeau de venir le nourrir. Un corbeau, c'est pas censé être intelligent, hein? Ouais. Quand Dieu l'ordonne à sa créature, hein, il aurait pu dire à une fourmi, écoute, sors la colonie, puis viens apporter de la nourriture à Élie, puis la colonie de fourmis aurait bougé pour venir porter de la nourriture à Élie, hein. Il a redonné un corbeau, vous imaginez? C'est incroyable quand vous pensez à ça, un corbeau, qui est un animal impur, en plus, dans l'Ancien Testament. Les voies de Dieu sont impénétrables. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris une colombe? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris un aigle? Pris un corbeau. Pensons à Josué. On est dans le livre de Josué, là, pour l'instant. Pensons à Moïse. Quand on dit que Dieu peut déplacer le ciel et la terre pour remplacer nos besoins, il a déplacé les eaux en deux pour rencontrer les besoins du peuple de Dieu avec Moïse. Pensez aux disciples, ce qu'ils ont vécu, Pierre qui a marché sur l'eau, les miracles qu'ils ont vus. Pensez à certaines veuves, à la veuve de Sarepta. Vous imaginez, pendant toute la durée de la sécheresse, son pot n'a pas diminué, elle a eu de la nourriture. Dieu, frères et sœurs, peut déplacer le ciel et la terre pour rencontrer vos besoins, mes besoins. Pensez à Marthe et Marie, voir son frère ressusciter des morts. Pensez à Georges Muller, pensez aux sauterelles, pensez à d'innombrables autres personnes. Pensez à vos propres vies. Il vous est arrivé dans vos vies que Dieu a déplacé le ciel et la terre pour rencontrer vos besoins, frères et sœurs. Frères et sœurs, si c'est votre cas ce matin, si ce serpent est attaché à votre main, faites comme Paul, secouez ce serpent pour vous en débarrasser. Deuxième serpent, le serpent de la critique, verset 4. Regardez verset 4. Quand les habitants virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, cet homme est sûrement un meurtrier, puisque la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Et aussitôt que Paul a été mordu par le serpent, les gens de l'île commencèrent à le critiquer, commencèrent à remettre en question finalement les qualités de cet homme-là. C'était des gens très méfiants et ils se sont imaginés que la vipère qui avait mordu l'apôtre Paul, c'était quelqu'un, parce que la vipère, pardon, avait mordu l'apôtre Paul, Paul était quelqu'un qui avait sûrement dû commettre quelque chose de très grave. Et leur dieu, c'est-à-dire Neptune et Némésis, eh bien, les avaient punis pour que justice soit rendue. Et les gens, frères et sœurs, sont souvent rapides pour critiquer lorsqu'ils ne comprennent pas ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Combien ont déjà fait l'objet de critiques de la part de certaines personnes? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Frères et sœurs, les Israélites ont critiqué Moïse pour tout ce qui n'était pas à leur goût. Ils murmurèrent lorsqu'ils avaient faim. Ils murmurèrent lorsqu'ils avaient soif. Même Jésus a dû faire face à la critique de la part de ses ennemis. Il fut même accusé par quelques scribes d'être un blasphémateur. Il fut même accusé par les pharisiens de chasser les démons par les princes de démons. Même Jésus n'a pas été épargné. Si vous ne faites pas attention, frères et sœurs, les critiques que vous entendez de la part de certains finiront par vous pousser à abandonner. La critique, elle ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas de critique négative comme il n'y a pas de critique positive. Une critique, ça demeure une critique. Est-ce que les paroles que tu me dis sont en train de m'édifier, sont en train de me démolir, ou sont en train de me décourager? Non. Tu viens me porter une parole réconfortante, c'est une chose. Tu peux me reprendre, ça aussi, c'est dans la parole. Mais la critique, elle ne construit rien, la critique. Donc, dans le monde dans lequel on vit, on parle de critique constructive, mais quand vous les écoutez, c'est pas toujours constructif, hein? Ouais. Le toit reste, mais tout le reste est tombé, hein? Et ici, il y a des moments où vous et moi, nous méritons d'être pris, hein, comme je l'ai dit. Il arrive parfois que nous nous trompons et nous avons besoin qu'on puisse nous montrer où nous avons commis des erreurs afin de ne pas les répéter. On a besoin. C'est tout le monde. Hein. Il y a d'autres moments où nous essayons de faire de notre mieux et nous sommes quand même mal compris, mal interprétés et même critiqués. Si vous n'êtes pas attentif, les critiques vous amèneront à tout abandonner et à tout quitter. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles. Tourne avec moi dans Nombres, chapitre 11, versets 1 à 14. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient ici, la dernière Sainte-Cène qu'on a fait, je vous avais dit qu'on prenait le repas à la table et qu'à un moment donné, on sera réunis tous ensemble aux noces de l'agneau et que j'ai dit que j'aimerais être assis en face de Moïse pour lui dire en tant que leader, pour le féliciter en tant que leader, quoi, comment il a pu agir à travers un peuple qui était toujours en train de le critiquer, et ce, dès le moment où il est sorti d'Égypte, quoi. Et je le répète encore une fois, c'est important pour nous. Dieu a voulu se débarrasser de ce peuple, et Moïse qui se jette à genoux, puis qui intercède pour que Dieu garde ce peuple-là. Pourquoi? Pour la sauver, la réputation de Dieu. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est la semaine passée, ou il y a 2 ou 3 semaines, je l'ai dit, hein. Pense, Seigneur, à ce que les gens vont penser de toi. Imagine que tu les as fait sortir juste pour les éliminer. Et ils intercèdent. Ça, c'est un gars qui est allé à l'école de Dieu. Hein. Ça, vous pouvez être certain que c'est Moïse. Il n'a pas passé 40 ans dans le désert à être formé par le Seigneur. Hein. Le Seigneur, il savait la tâche qui l'attendait. Hein. Ouais. Le Seigneur, il savait la tâche qui l'attendait. Il savait quels gens il ferait sortir d'Égypte. Hein. Et c'est la même chose aujourd'hui, frères et sœurs. Le Seigneur, il sait qui va chercher dans le monde, qui va faire rentrer dans l'Église. Hein. Et si on n'est pas appelé comme Moïse, hein, peu importe les ministères qu'on occupe dans l'Église, on ne tient pas le coup. Hein. Ouais. Parce que tout est par grâce. Hein. Tout est vraiment par grâce. Ouais. Vous imaginez Moïse, là, il y a des millions de personnes avec lui. Et c'est toujours la critique. Hein. Ce gars-là, toujours, ils n'étaient jamais satisfaits. Mais en même temps, en manifestant leur insatisfaction, ils étaient en train de critiquer Dieu. Quoi. C'est ça le problème. En critiquant Moïse, il critiquait Dieu parce que c'est Dieu qui avait placé Moïse là. Quoi. Ouais. Regardez le texte ici. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabera parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dirent, « Vous, la punition est passée, la colère de Dieu est passée, les enfants d'Israël recommencent encore à critiquer. Regardez, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. » Comme si les esclaves là-bas, là, il y avait une grosse table bien garnie à chaque jour, là, puis il y avait des serviteurs qui venaient les nourrir en versant du vin à tout le monde. Jusqu'à ce qu'il y en ait jusque par-dessus la casquette, quoi. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des cocombes, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Alors, mon ami, pourquoi t'es pas resté en Égypte? Le Seigneur dans Luc, il dit, celui qui regarde en arrière est inutilisable pour le royaume de Dieu. C'est exactement ce qu'ils avaient, ces gens-là. Ils regrettaient ce qu'ils avaient laissé. Et ils n'avaient rien. Ça vous démontre comment le cœur de l'homme est tortueux. Hein? Ils n'avaient rien. C'était des esclaves. Je tiens simplement à vous rappeler qu'à l'époque des Égyptiens, les esclaves étaient moins considérés que les chiens. Dans la classe sociale, il y avait le chien et il y avait l'esclave. Ouais. Oh! On s'ennuie de la viande, des cocons, des melons, des si. Oh mon Dieu! Hey. Sans savoir s'ils n'essayaient pas de voler l'os du chien, hein? Parce qu'ils n'avaient rien à manger souvent. Ouais. On est comme ça, hein? Et regardez combien rapidement ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux, les miracles qu'ils avaient fait pour eux. Frères et sœurs, on est des gens oublieux. Et si on ne garde pas nos yeux dans la parole, comme eux n'ont pas gardé leurs yeux sur Dieu, hein, rapidement on va oublier les bienfaits qu'on a reçus de Dieu depuis qu'il est venu nous chercher. Et même avant, parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais, et il donne à manger aussi aux justes et aux injustes. Ouais. On va oublier toutes ces bénédictions. On continue, hein? Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Ah, c'est incroyable, hein? Incroyable de dire ça, quoi. Hey! C'est comme s'ils avaient préparé une commande d'épicerie, là, et puis envoyé la liste en haut, et Seigneur, c'est ça que je vais avoir à manger pour aujourd'hui, quoi. Hey, regardez ce qu'ils disent, hein? C'est vrai. Nos yeux ne voient que de la manne. Ah! La manne ressemblait à la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pliait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Et quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait. Chacun dans sa famille à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Il dit à l'Éternel, « Pourquoi afflige-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux ?» que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Hey, Moïse étant presque rendu à penser que c'est une punition que Dieu lui avait donnée de le nommer responsable de ce groupe de rebelles, quoi. Ouais. Pourquoi j'ai pas trouvé grâce à tes yeux pour que tu me mettes cette charge-là sur moi, quoi? Ouais. Regardez la suite. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant? Jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrais-je la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger! Je ne puis pas, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Frères et sœurs, les gens faciles à la critique, comme nous sommes faciles à la critique, frères et sœurs. On est de la même race. Hein? On n'est pas une nouvelle race. On est de la même race, humainement parlant. On est né de nouveau, mais on sait d'où on vient, du premier Adam. Frères et sœurs, il y a des gens qui se glorifient de leur franchise et malheureusement, cela finit par provoquer de vives tensions. Un de ceux-là dit un jour à John Wesley, « Monsieur Wesley, je suis fier de moi parce que je suis franc. Je dis toujours tout ce que je pense. C'est un don chez moi. » Eh bien, lui dit Wesley, « Le Seigneur ne vous en voudrait pas si vous laissiez tomber ce don. » Il est important de bien peser ses mots, de bien peser nos mots avant de placer le fardeau sur les autres. Comment réagissez-vous lorsque vous faites face à la critique, frères et sœurs? Si vous êtes Moïse ou Josué, vous continuez à servir fidèlement le peuple. Si vous êtes Jésus, vous acceptez de vous rendre jusqu'à la croix et mourir pour ceux qui vous critiquent. Certains méritent qu'on les écoute, d'autres pas. Si vous êtes sage, vous allez vous tenir loin de ceux qui critiquent et vous allez vous concentrer plutôt sur Jésus-Christ. Amen. Ouais. Quant à nous, nous sommes entourés. En Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. Vous pouvez tourner aussi. Hébreux chapitre 12 à 3. 12 et verset 1 à 3. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui gêne notre marche et du péché qui s'accroche si facilement à nous et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a supporté qu'on le fasse mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite de Dieu. Frères et sœurs, pensez à la joie qui vous est réservée dans les lieux célestes. Pensez à cette joie. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition, continue l'auteur, de la part des pécheurs. Et ainsi, ne vous laissez pas abattre, ne vous découragez pas. Frères et sœurs, si c'est votre cas ce matin, si ce serpent animé d'un esprit de critique est suspendu à votre main, faites comme Paul, secouez-le, débarrassez-vous-en, frères et sœurs. Il dit, tu m'as mordu une fois, mais c'est terminé. Cette blessure, elle n'est pas mortelle, parce que je suis guéri par le sang d'un agneau, parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Et rejetez à tout jamais ce serpent qui ne cherche finalement qu'à vous faire perdre votre joie dans le Seigneur, votre peine dans le Seigneur, à vous décourager, à faire en sorte que vous abandonniez tout. Ouais. Troisième serpent, le serpent qui est animé d'un esprit cynique, verset 6. Frères et sœurs, ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, regardez la phrase, hein, ils changèrent d'avis. Ils changèrent d'avis. Incroyable. Frères et sœurs, est-ce que vous faites confiance à un être humain? Continuez à lire les Écritures parce que il n'y a pas un être humain qui est digne de confiance en dehors de Jésus-Christ. Vous en voulez des exemples dans la Bible? Paul est rentré dans une ville, il a fait des choses extraordinaires, Dieu a fait des choses extraordinaires à travers lui. On en a parlé hier au G30. On pensait que c'était les dieux qui étaient descendus du ciel. Il a commencé à prêcher l'Évangile, le lendemain, toute la foule voulait le lapider. Vous voulez faire confiance aux êtres humains? Quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime, dites-lui, bien écoute, avant de dire oui, amen à ça, je vais attendre que tu me prouves dans la pratique que tu m'aimes. Jésus nous a dit qu'il nous aimait, et il a prouvé dans la pratique qu'il nous aimait. Il a donné sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie pour ceux qu'il aimait. Ouais. Il a donné sa vie, pardon, pour ses ennemis, pas pour ses amis, pour ses ennemis. Ouais, parce qu'il nous aimait. Les gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Ils s'attendaient à ce que Paul soit foudroyé. Ils ne s'attendaient pas à ce que Paul se sorte de cette situation et ils vont se lancer des paroles en l'air. C'est ça un esprit cynique. Il a sûrement commis quelque chose de grave. Ouais. Combien de gens étaient l'objet de paroles cyniques dans le passé qui les a détruits, qui leur a fait du mal? Ou on leur a dit, tu n'y arriveras jamais. J'ai fait 8 églises dans ma vie, moi. Il y en a combien qui m'ont dit, cette église-là, écoute, elle ne tiendra pas le coup. Cette église-là va fermer bientôt. Ouais. Et pourtant, les églises qu'on m'a dit ça fait 100 ans qu'elles existent au Québec. Elles sont toujours là. Ouais. C'est cynique, ça, de dire ça, quoi. C'est cynique. Tu vas échouer, tu vas tomber, c'est pas réel ce que tu vis, c'est artificiel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais. Je suis pas tout seul, quand même, qui a vécu ça, hein. Si vous ne faites pas attention, la prophétie du cynique peut finir par s'accomplir dans votre vie. Vous commettez une erreur et vous surprenez à dire « à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon continuer? C'est préférable de tout laisser tomber. » Frères et sœurs, les gens cyniques n'ont pas le dernier mot. Secouez la vipère qui est suspendue à votre main. Secouez ce serpent cynique qui est suspendu à votre main et débarrassez-vous-en, comme Paul l'a fait. C'est-à-dire, le cynique, c'est quelqu'un qui lance des paroles en l'air, qui parle pour vous diminuer, pour prouver, et prouver que ceux qui cherchent à semer le doute dans votre esprit, mais cherchez à prouver que ceux qui sèment le doute dans votre esprit se trompent, frères et sœurs. Utilisez la parole de Dieu qui est une arme efficace à double tranchant. Ce fut l'attitude adoptée par David dans 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Allons dans 1 Samuel chapitre 17. Rapidement, on va terminer le message avec ça. 1 Samuel 17, les versets 28 à 51. On n'ira pas tout, là, parce que 28 à 51, ça fait un beau voyage, hein. Mais on va essayer de prendre des raccourcis. S'il y en avait un qui était cynique, là, c'est bien le géant Goliath, hein? Géant Goliath, hein? Ah! Incroyable, hein? Et frères et sœurs, le chapitre 17, là, il nous parle énormément. On a déjà fait une série sur ce chapitre-là il y a 15 ans. Mais il nous parle énormément parce que c'est pas l'expérience, non, c'est pas le nombre d'années qu'on appartient au Seigneur qui fait qu'on est plus qualifié qu'un autre. C'est notre relation, la relation qu'on vit avec le Seigneur. Et ici, on a un exemple parfait. Vous avez une armée qui, depuis 40 jours, tremble devant un seul homme. L'armée, c'est des hommes aguerris, hein. C'était pas des gars qui sortaient de l'école militaire, c'était des soldats aguerris. Ils tremblaient tous devant un homme qui venait les provoquer matin après matin. C'était des gens qui étaient dans l'armée depuis des années. Là arrive un petit maigrichon, quoi, hein, David, un jeune. Il vient porter de la nourriture à ses frères, il vient prendre de leurs nouvelles, hein, sur l'ordre de son père. Et son frère, il lui répond, mais bêtement, hein? Oui. Il écrit ici qu'Éliab fut enflammé de colère contre David. Il lui dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Comme si lui, là, il faisait pas grand-chose là-bas, là, il perdait son temps. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Quelle parole cynique, frères et sœurs. C'est pour voir la bataille que tu es venu, hein? Ah ouais, ça te fait plaisir, hein? Ouais. Et David, il comprend pas, il se demande, ben, il dit, écoute, qu'est-ce que j'ai fait que tu me parles comme ça? Ouais. Et là, David, il va aller voir Saül. On va l'envoyer, on va en parler à Saül et on va voir. David dit à Saül, verset 32-33, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et regardez David ce qu'il dit. Un homme qui est en communion parfaite avec son Seigneur. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, ah, ça c'est fort, hein? Je courais après lui. Moi, j'aurais peut-être couru dans l'autre sens, hein? Mais là, lui, il dit, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. C'est pas l'ours qui est en train de courir après la brebis, puis David, il court, puis il met son pied pour faire culbuter l'ours, là. Non! Il dit qu'il l'avait dans sa gueule. C'est le texte biblique, hein? C'est pas Jacques Hudon qui l'a dit, là. Ouais. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Je vous ai déjà dit, hein, il y a plusieurs années, je vais le répéter pour le nouveau, le premier qui m'a parlé du Seigneur, quand il témoigne à quelqu'un, ou quand il partage comme ça, et puis que la personne, elle lance un blasphème, là, il lui dit, écoute, tu m'insultes. Il lui dit, hein. Il fait comme David, hein. Écoute, si tu veux qu'on continue à parler, que ce soit pour n'importe quoi, hein. Ça peut être, il rencontre quelqu'un à la sortie d'une épicerie, ils papotent ensemble, et la personne, elle commence à lancer des blasphèmes. Il lui dit, écoute, si tu veux qu'on continue, là, il faut que tu arrêtes de blasphémer. Tu m'insultes. Hey, écoute, comment je t'insulte? Ouais. T'insultes mon Dieu, quoi. Tu insultes mon Dieu. Et c'est vrai. L'Éternel, il est insulté. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré, regardez le texte biblique, de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül, il commence à y mettre tout l'équipement du parfait soldat, quoi. Et David, il n'a jamais porté. J'imagine le pauvre jeune, quand ça pesait. Vous imaginez, là, c'était pas du plastique que du PVC comme on a aujourd'hui, hein, les uniformes, hein. Mais il devait être écrasé, le pauvre, hein. Et il disait à Saül, là, écoute, enlevez-moi ça. Moi, je serais pas capable d'avancer même avec ça. Et quoi, il prend son bâton. Il choisit dans le torrent 5 pierres polies. Il les met dans sa gibecière de berger dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avance vers le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant qu'en lui un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Quel mépris, quoi! Quel mépris, frères et sœurs! Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et je marche contre toi avec au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Mais quelle foi, quoi! Quelle foi! Et moi, je suis de ceux là, qui pensent que même s'il a pris une petite pierre dans sa gibecière, hein, même s'il avait lancé par là, hein, je suis convaincu que Dieu l'aurait pris. Tu vas le recevoir en plein front, Goliath, tu vas tomber, quoi. Ouais. Et ça prend tout un visu, là, parce que si vous regardez bien, c'est en courant qu'il a lancé. Hein? Et il n'a pas commencé à mesurer les angles et tout ça pour voir si c'était la bonne place. En courant, hein? Précesseur, c'est Dieu a fait un miracle à travers la main de David. Hein? Parce que s'il rate celle-là, là, il n'a pas le temps de commencer à fouiller et se tourner le dos à Goliath puis dire, attends un peu, je vais préparer la deuxième, quoi. Hein? Ouais. C'est ça la foi qui transporte des montagnes. Hein? C'est ça la foi qui fait tomber les géants qui se placent devant nous et qui nous décourage, hein? Qui nous méprise parce qu'on est des enfants de Dieu, qui se moque de nous parce qu'on est des enfants de Dieu. Regardez la suite en terminant. Hein? Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël est un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car ta victoire, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se met en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin, et il a mis, je l'ai dit, il a lancé, et le Philistin est tombé. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, saisit sur son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Frères et sœurs, le Seigneur ne travaille pas avec des héros du monde, il travaille avec des héros de la foi. Et David, il fait partie d'un héros, c'est un des héros de la foi, frères et sœurs. Et ce n'est pas David qui a tué Goliath, c'est Dieu à travers David qui a foudroyé Goliath. Parce que son enfant avait la foi que Dieu interviendrait dans sa vie. En partant avant même, il dit, la victoire appartient à l'Éternel, que tu sois insulté. Ouais. La victoire, c'est pas moi qui vais gagner ça, ce combat-là. C'est Dieu qui va la gagner. La victoire, elle est à l'Éternel. Et frères et sœurs, peu importe ce que vous vivez, les difficultés, rappelez-vous que Dieu, comme David, si vous, votre relation, elle est comme celle de David, ce qu'elle doit être en tant qu'enfant de Dieu, Dieu vous prépare une grande victoire. Dieu veut se glorifier à travers vous, frères et sœurs. Oui, mais on a besoin de marcher avec les yeux de la foi. Personne ne peut déterminer la qualité, la durée de votre service envers Dieu, sauf Dieu lui-même. Il n'y a pas un esprit de critique, un esprit cynique ou une situation critique que vous vivez qui peut vous éloigner de lui, à moins que vous le permettiez. Y a-t-il des serpents accrochés après vous ce matin, frères et sœurs? Faites comme Paul, secouez ces serpents. Comment? Jacques, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jésus a dit qu'il arrive que nous devions prier et jeûner pour nous débarrasser de certains serpents. Approchez-vous fermement aux promesses de Dieu, accrochez-vous fermement aux promesses de Dieu. Dieu avait déjà dit à Paul qu'il irait à Rome. Il savait donc, Paul, que tout n'était pas terminé pour lui parce qu'il n'était pas encore arrivé à Rome. Et frères et sœurs, Dieu vous a fait de belles promesses et votre route n'est pas encore terminée. Et Dieu veut continuer à faire en sorte que ces promesses qui se trouvent dans la parole puissent s'accomplir dans votre vie. Amen. Dieu a promis qu'il nous accueillera un jour au ciel. Nous savons que tout n'est pas encore terminé parce que nous n'y sommes pas encore arrivés. Et finalement, ne répondez pas à tout ce que les gens disent ou pensent de vous. Paul n'a pas réagi aux personnes qui ont souhaité sa mort. Acte chapitre 28, versets 4 à 6. Il faisait confiance à son Dieu. Devant le sacrificateur, Jésus a gardé le silence. Il a été maltraité et opprimé, dit Isaïe, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qui mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il est possible que vous ayez un serpent accroché à votre main ce matin. Mes frères et sœurs, Dieu est là pour vous donner la victoire sur tous les serpents du monde que vous allez rencontrer. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter un cantique.